Les trois manières. Que les Athéniens étaient un peuple aimable, que leur esprit m'enchante, et que leurs fictions me font aimer le vrai sous les traits de la fable. La plus belle à mon gré de leurs inventions fut celle du théâtre, où l'on faisait revivre les héros du vieux temps, leurs mœurs, leurs passions. Vous voyez aujourd'hui toutes les nations consacrer cet exemple et chercher à le suivre. Le théâtre instruit mieux que ne fait un gros livre. Malheur aux esprits faux dont la sotte rigueur condamne parmi nous les jeux de Melpomène. Quand le ciel eut formé cette engeance inhumaine, la nature oublia de lui donner un cœur. Un des plus grands plaisirs du théâtre d'Athènes était de couronner, dans des jeux solennels, les meilleurs citoyens, les plus grands des mortels. En présence du peuple, on leur rendait justice. Ainsi j'ai vu Villard, ainsi j'ai vu Maurice, qu'un maudit courtisan quelquefois censura, du chant de la victoire allant à l'opéra, recevoir des lauriers de la main d'une actrice. Ainsi, quand Richelieu revenait de Mahon, qu'il avait pris pourtant en dépit de l'envie, partout sur son passage il eut la comédie, on lui battit des mains encore plus qu'à Clairon. Au théâtre d'Eschyle, avant que Melpomène, sur son cothurne altier, vînt parcourir la scène, on décernait les prix accordés aux amants. Celui qui, dans l'année, avait pour sa maîtresse fait les plus beaux exploits, montré plus de tendresse, mieux prouvé par les faits ses nobles sentiments, se voyait couronné devant toute la Grèce. Chaque belle plaidait la cause de son cœur, de son amante aimée racontait les mérites, après un beau serment dans les formes prescrites, de ne pas dire un mot qui sentît l'orateur, de n'exagérer rien, chose assez difficile aux femmes, aux amants et même aux avocats. On nous a conservé l'un de ces beaux débats, doux enfants du loisir de la Grèce tranquille. C'était, il m'en souvient, sous l'archonte Damas. Devant les Grecs charmés, trois belles comparurent. La jeune Églée, Théone et la triste Apamis. Les beaux esprits de Grèce au spectacle accoururent. Ils étaient grands parleurs, et pourtant ils se turent, écoutant gravement en demi-cercle assis. Dans un nuage d'or, Vénus, avec son fils, prêtait à leur dispute une oreille attentive. La jeune Églée commence. Églée, simple et naïve, de qui la voix touchante et la douce candeur charmait l'oreille et l'œil et pénétrait au cœur. Églée. Hermotime, mon père, a consacré sa vie aux muses, aux talents, à ces dons du génie qui des humains jadis ont adouci les mœurs. Tout entier aux beaux-arts, il a fui les honneurs. Et, sans ambition cachée dans sa famille, il n'a voulu donner pour époux à sa fille qu'un mortel comme lui favorisé des dieux, élevé dans son art, et qui serait le mieux animé sur la toile et chanté sur la lyre, ce peu de vains attraits que m'ont donné les cieux. Lycdamon m'adorait. Son esprit sans culture devait, je l'avouerai, beaucoup à la nature. Ingénieux, discret, poli sans compliment, parlant avec justesse et jamais savamment, sans talents, il est vrai, mais sachant s'y connaître. L'amour forma son cœur, les grâces son esprit. Il ne savait qu'aimer, mais il était grand maître dans ce premier des arts que lui seul il m'apprit. Quand mon père eut formé le dessein tyrannique de m'arracher l'objet de mon cœur amoureux et de me réserver pour quelque peintre heureux qui ferait de bons vers et saurait la musique, que de larmes alors coulèrent de mes yeux. Nos parents ont sur nous un pouvoir despotique. Puisqu'ils nous ont fait naître, ils sont pour nous des dieux. Je mourrais, il est vrai, mais je mourrais soumise. Lycdamon s'écarta, confus, désespéré, cherchant loin de mes yeux un asile ignoré. 6 mois furent le terme où ma main fut promise. Ce délai fut fixé pour tous les prétendants. Ils n'avaient tous, hélas, dans leur triste talent, à peindre que l'ennui, la douleur et les larmes. Le temps qui s'avançait redoublait mes alarmes. Lycdamon, tant aimé, me fuyait pour toujours. J'attendais mon arrêt, et j'étais au concours. Enfin, de vingt rivaux, les ouvrages parurent. Sur leur perfection, mis le débat s'émurent. Je ne pus décider, je ne les voyais pas. Mon père se hâta d'accorder son suffrage au talent trop vanté du fier et dur harpage. On lui promit ma foi, j'allais entre ses bras. Un esclave empressé frappe, arrive à grands pas, apportant un tableau d'une main inconnue. Sur la toile aussitôt chacun porta la vue. C'était moi. Je semblais respirer et parler. Mon cœur en long soupir paraissait s'exhaler, et mon air et mes yeux tout annonçaient que j'aime. L'art ne se montrait pas. C'est la nature même, la nature embellie, et par de doux accords, l'âme était sur la toile aussi bien que le corps. Une tendre clarté s'y jointe à l'ombre obscure, quand on voit au matin le soleil de ses traits percer la profondeur de nos vastes forêts et dorer les moissons, les fruits et la verdure. Harpage en fut surpris. Il voulut censurer. Tout le reste se tut et ne put qu'admirer. Quel mortel ou quel dieu, s'écriait Thermotime, du talent d'imiter fait un art si sublime. À qui ma fille enfin devra-t-elle sa foi? Lygdamon, se montrant, lui dit : Elle est à moi. L'amour seul est son peintre, et voilà son ouvrage. C'est lui qui dans mon cœur imprima cette image, c'est lui qui sur la toile a dirigé ma main. Quel art n'est pas soumis à son pouvoir divin, il les anime tous. Alors, d'une voix tendre, sur son luth accordé, Lygdamon fit entendre un mélange inouï de sons harmonieux. On croyait être admis dans le concert des dieux. Il peignit comme Appel, il chanta comme Orphée. Harpage en frémissait, sa fureur étouffée s'exhalait sur son front et brûlait dans ses yeux. Il prend un javelot de ses mains forcenées, il court, il va frapper. Je vis l'affreux moment où le traître à sa rage immolait mon amant, où la mort d'un seul coup tranchait deux destinées. Lygdamon l'aperçoit, il n'en est point surpris, et, de la même main sous qui son luth résonne et qui sut enchanter nos cœurs et nos esprits, il combat son rival, là-bas, et lui pardonne. Jugez si de l'amour il mérite le prix, et permettez du moins que mon cœur le lui donne. Ainsi parlait Aiglé. L'amour applaudissait, les Grecs battaient des mains, la belle rougissait. Elle en aimait encore son amant davantage. Théone se leva. Son air et son langage ne connurent jamais les soins étudiés. Les Grecs, en la voyant, se sentaient égayés. Théone, souriant, conta son aventure en vers moins allongés et d'une autre mesure, qui courent avec grâce et vont à quatre pieds, comme en fit Hamilton, comme en fait la nature. Théone. Vous connaissez tous Agathon, il est plus charmant que Niré. À peine d'un naissant coton sa ronde joue est éparée, sa voix est tendre, il a le ton comme les yeux de Cythérée. Vous savez de quel vermillon sa blancheur vive est colorée. La chevelure d'Apollon n'est pas si longue et si dorée. Je le pris pour mon compagnon, aussitôt que je fus nubile. Ce n'est pas sa beauté fragile dont mon cœur fut le plus épris. S'il a les grâces de Paris, mon amant a le bras d'Achille. Un soir, dans un petit bateau, tout auprès d'une île Cyclade, ma tante et moi goûtions sur l'eau le plaisir de la promenade. Quand de Lydie un gros vaisseau vint nous aborder à la rade. Le vieux capitaine écumeur venait souvent dans cette plage chercher les filles de mon âge pour les plaisirs du gouverneur. En moi, je ne sais quoi le frappe, il me trouve un air assez beau. Il laisse ma tante, il me happe, il m'enlève comme un moineau et va me vendre à son satrape. Ma bonne tante, en glapissant et la poitrine déchirée, s'en retourne au port du Pirée raconter aux premiers passants que sa Théone est égarée, que de Lydie un armateur, un vieux pirate, un revendeur de la féminine denrée s'en est allé livrer ma fleur au commandant de la contrée. Pensez-vous alors qu'Agathon s'amusât à verser des larmes, à me peindre avec un crayon, à chanter sa perte et mes charmes sur un petit psaltérion? Pour me ravoir, il prit les armes. Mais, n'ayant pas de quoi payer seulement le moindre estaffier, et se fiant sur sa figure, d'une fille il prit la coiffure, le tour de gorge et le panier. Il cacha sous son tablier un long poignard et son armure, et courut tenter l'aventure dans la barque d'un hôtelier. Il arrive au bord du méandre avec son petit attirail. À ses attraits, à son air tendre, on ne manqua pas de le prendre pour une ouaille du bercail où l'on m'avait déjà fait vendre. Et dès qu'à terre il put descendre, on l'enferma dans mon sérail. Je ne crois pas que de sa vie une fille ait jamais goûté le quart de la félicité qui combla mon âme ravie quand, dans un sérail de Lydie, je vis mon grec à mon côté et que je pus en liberté récompenser la nouveauté d'une entreprise si hardie. Pour époux, il fut accepté. Les dieux seuls daignaient reparaître à cet hymen précipité, car il n'était point là de prêtre, et, comme vous pouvez penser, des valets on peut se passer quand on est sous les yeux du maître. Le soir, le satrape amoureux, dans mon lit, sans cérémonie, vint m'expliquer ses tendres vœux. Il crut, pour apaiser ses feux, n'avoir qu'une fille jolie. Il fut surpris d'en trouver deux. « Tant mieux, dit-il, car votre ami, comme vous, est fort à mon gré. J'aime beaucoup la compagnie. Toutes deux, je contenterai. N'ayez aucune jalousie. » Après sa petite leçon qui l'accompagnait de caresses, il voulait agir tout de bon. Il exécutait ses promesses et je tremblais pour Agathon. Mais mon grec, d'une main guerrière, le saisissant par la crinière et tirant son estramaçon, lui fit voir qu'il était garçon et parla de cette manière. « Sortons tous trois de la maison et qu'on me fasse ouvrir la porte. Faites bien signe à votre escorte de ne suivre en nulle façon. Marchons tous les trois au rivage. Embarquons-nous sur un esquif. J'aurai sur vous l'œil attentif, point de geste, point de langage. Au premier signe un peu douteux, au clignement d'une paupière, à l'instant, je vous coupe en deux et vous jette dans la rivière. » Le satrape était un seigneur assez sujet à la frayeur. Il eut beaucoup d'obéissance. Lorsqu'on a peur, on est fort doux. Sur la nacelle en diligence, nous l'embarquâmes avec nous. Sitôt que nous fûmes en Grèce, son vainqueur le mit à rançon. Elle fut en sonnante espèce, elle était forte. Il m'en fit don, ce fut ma dot et mon douair. Avouez qu'il a su plus faire que le bel esprit Lygdamon, et que j'aurais fort à me plaindre s'il n'avait songé qu'à me peindre et qu'à me faire une chanson. Les Grecs furent charmés de la voix douce et vive, du naturel aisé, de la gaieté naïve dont la jeune Théon anima son récit. La grâce en s'exprimant vaut mieux que ce qu'on dit. On applaudit, on rit, les Grecs aimaient à rire. Pourvu qu'on soit content, qu'importe qu'on admire. Apamis s'avança les larmes dans les yeux. Ses pleurs étaient un charme et la rendaient plus belle. Les Grecs prirent alors un air plus sérieux et dès qu'elle parla, les cœurs furent pour elle. Apamis raconta ses malheureux amours en maîtres qui n'étaient ni trop longs ni trop courts. 10 syllabes par vers, mollement arrangées, se suivaient avec art et semblaient négligées. Le rythme en est facile, il est mélodieux. L'hexamètre est plus beau, mais parfois ennuyeux. Apamis. L'astre cruel sous qui j'ai vu le jour m'a fait pourtant naître dans Amatonte, lieu fortuné où la Grèce raconte que le berceau de la mère d'amour par les plaisirs fut apporté sur l'onde. Elle y naquit pour le bonheur du monde, à ce qu'on dit, mais non pas pour le mien. Son culte aimable et sa loi douce et pure à ses sujets n'avait fait que du bien, tant que sa loi fut celle de nature. Le rigorisme a souillé ses autels, les dieux sont bons, les prêtres sont cruels. Les novateurs ont voulu qu'une belle, qui par malheur deviendrait infidèle, irait finir ses jours au fond de l'eau où la déesse avait eu son berceau si quelque amant ne se noyait pour elle. Pouvait-on faire une loi si cruelle? Hélas! Faut-il le frein du châtiment au cœur bien né pour aimer constamment? Et si jamais à la faiblesse en proie, quelque beauté vient à changer d'amant, C'est un grand mal, mais faut-il qu'on la noie ? Tendre Vénus, vous qui fîtes ma joie et mon malheur, vous qu'avec tant de soin j'avais servi avec le beau Bathyle, d'un cœur si droit, d'un esprit si docile, vous le savez, je vous prends à témoin comme j'aimais, et si j'avais besoin que mon amour fût nourri par la crainte. Des plus beaux nœuds, la pure et douce étreinte faisait un cœur de nos cœurs amoureux. Bathyle et moi, nous respirions ces feux dont autrefois a brûlé la déesse. L'astre des cieux, en commençant son cours, en l'achevant, contemplait nos amours. La nuit savait quelle était ma tendresse. Arénorax, homme indigne d'aimer, au regard sombre, au front triste, au cœur traître, d'amour pour moi parut s'envenimer. Non s'attendrir, il le fit bien connaître. Né pour haïr, il ne fut que jaloux. Il distilla les poisons de l'envie. Il fit parler la noire calomnie. Ô délateur, monstre de ma patrie, né de l'enfer, hélas, rentrez-y tous. Là contre moi mis tant de vraisemblance que mon amant put même s'y tromper, et l'imposture accabla l'innocence. Dispensez-moi de vous développer le noir tissu de sa trame secrète. Mon tendre cœur ne peut s'en occuper, il est trop plein de l'amant qu'il regrette. À la déesse, en vain, j'eus mon recours. Tout me trahit, je me vis condamné à terminer mes maux et mes beaux jours dans cette mer où Vénus était née. On me menait au lieu de mon trépas. Un peuple entier mouillait de pleurs mes pas et me plaignait d'une plainte inutile. Quand je reçus un billet de Bathyle, fatal écrit, qui changeait tout mon sort. Trop cher écrit, plus cruel que la mort. Je crus tomber dans la nuit éternelle quand je l'ouvris, quand j'aperçus ces mots. Je meurs pour vous, fussiez-vous infidèle. C'en était fait. Mon amant dans les flots s'était jeté pour me sauver la vie. On l'admirait en poussant des sanglots. Je l'implorais, ô mort, ma seule envie, mon seul devoir. On eut la cruauté de m'arrêter lorsque j'allais le suivre. On m'observa. J'eus le malheur de vivre. De l'imposteur, la sombre iniquité fut mise au jour et trop tard découverte. Du talion, il a subi la loi. Son châtiment répare-t-il ma perte ? Le beau Bathyle est mort, et c'est pour moi. Je viens à vous, ô juge favorable, que mes soupirs, que mes funèbres soins touchent vos cœurs, que j'obtienne du moins un appareil à des maux incurables. À mon amant, dans la nuit du trépas, donnez le prix que ce trépas mérite, qu'il se console aux rives du Cocyte quand sa moitié ne se console pas, que cette main qui tremble et qui succombe par vos bontés encore se ranimant puisse à vos yeux écrire sur sa tombe « Athènes et moi couronnons mon amant ». Disant ces mots, ses sanglots l'arrêtèrent, elle se tut, mais ses larmes parlèrent. Chaque juge fut attendri. Pour régler d'abord, ils penchèrent. Avec Théone, ils avaient ri. Avec Apamis, ils pleurèrent. J'ignore, et j'en suis bien mari, quel est le vainqueur qu'ils nommèrent. Au coin du feu, mes chers amis, c'est pour vous seuls que je transcris ces contes tirés d'un vieux sage. Je m'en tiens à votre suffrage. C'est à vous de donner le prix. Vous êtes mon aréopage. »